Test de compréhension orale. Exercice 1. Vous allez entendre le récit d'une expérience sportive. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à M pour compléter les phrases 1 à 10. Il y a deux éléments dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Alors, je vais raconter ma première expérience de rafting. Alors, ça s'est passé exactement il y a 2 ans. C'était pour mon anniversaire. Et en fait, c'était une surprise que j'ai reçue de la part de ma femme. Alors, je suis une personne, en général, qui n'aime pas les choses imprévues. Je n'aime pas les surprises. Alors, j'ai essayé de ne pas lui montrer que j'étais pas très content de son cadeau. Et j'étais même un petit peu en colère parce que j'aime pas qu'on me force, qu'on m'oblige à faire quelque chose que je n'ai pas choisi. Finalement, j'aurais préféré un cadeau matériel comme un livre ou un DVD ou peut-être qu'on aille au restaurant ensemble, mais pas quelque chose d'aussi engageant physiquement et émotionnellement. Alors, on a pris la voiture pour aller sur les lieux de départ, donc, de cette descente en rafting. Et sur le trajet, mon mécontentement s'est transformé carrément en peur. J'avais une crainte incroyable de ce qui allait m'arriver, de l'expérience que j'allais vivre. Et j'ai complètement perdu confiance en moi. J'ai imaginé même que quelque chose de terrible allait pouvoir m'arriver pendant cette descente. Alors, il y avait quelques kilomètres à parcourir, et j'ai vraiment stressé. Alors finalement, on est arrivé sur les lieux. Les gens étaient très sympas. Il y avait même une jeune femme française qui s'occupait de la réception des clients. Alors j'ai discuté avec elle quelques minutes. Ça m'a mis à l'aise. Je me suis rassuré. Finalement, j'ai retrouvé un petit peu mon calme. Quelques minutes plus tard, après notre arrivée, sont arrivés d'autres clients. Un couple d'Allemands, je crois. Et finalement, la jeune Française à la réception m'a expliqué que nous serions au total 8 personnes et que nous serions tous dans le même rafting, dans la même embarcation. Ensuite, l'animateur est arrivé. C'était la personne donc qui allait conduire, qui allait piloter le bateau. Il avait l'air vraiment très sympa, hyper professionnel, très cool. Bon, j'étais finalement un peu plus rassuré encore. On est tous montés dans un minibus. Et on a parcouru, je crois, une quinzaine, peut-être une vingtaine de kilomètres encore, pour arriver exactement au point de départ de la descente en rafting. Alors là, la rivière était incroyablement agitée, il y avait beaucoup, beaucoup d'eau, parce qu'il avait plu la veille, et qu'il y avait au-dessus exactement un grand glacier qui était en train de fondre. Donc le volume d'eau était vraiment extraordinaire. Et le moniteur expliquait que c'était vraiment des conditions idéales. On est donc arrivé, on a posé le bateau au sol et le moniteur nous a tous fait monter à l'intérieur et nous a expliqué les consignes de sécurité, il nous a donné les commandements à suivre lorsque nous serions donc sur la rivière, comment tourner à droite, comment tourner à gauche, faire toutes les choses selon ses ordres. Finalement, on a transporté le bateau jusqu'à la rivière et l'aventure a commencé. Alors là, 1h30, presque 2 heures de folie, une descente dans des eaux très violentes, énormément d'eau. J'ai vécu une expérience totalement incroyable, certainement l'une des plus excitantes de toute ma vie. Je pourrais comparer ça à une expérience de Via Ferrata. Alors, je vais raconter ma première expérience de rafting. Alors, ça s'est passé exactement il y a 2 ans. C'était pour mon anniversaire. Et en fait, c'était une surprise que j'ai reçue de la part de ma femme. Alors, je suis une personne, en général, qui n'aime pas les choses imprévues. Je n'aime pas les surprises. Alors, j'ai essayé de ne pas lui montrer que j'étais pas très content de son cadeau. Et j'étais même un petit peu en colère parce que j'aime pas qu'on me force, qu'on m'oblige à faire quelque chose que je n'ai pas choisi. Finalement, j'aurais préféré un cadeau matériel comme un livre ou un DVD ou peut-être qu'on aille au restaurant ensemble, mais pas quelque chose d'aussi engageant physiquement et émotionnellement. Alors, on a pris la voiture pour aller sur les lieux de départ, donc, de cette descente en rafting. Et sur le trajet, mon mécontentement s'est transformé carrément en peur. J'avais une crainte incroyable de ce qui allait m'arriver, de l'expérience que j'allais vivre. Et j'ai complètement perdu confiance en moi. J'ai imaginé même que quelque chose de terrible allait pouvoir m'arriver pendant cette descente. Alors, il y avait quelques kilomètres à parcourir, et j'ai vraiment stressé. Alors finalement, on est arrivé sur les lieux. Les gens étaient très sympas. Il y avait même une jeune femme française qui s'occupait de la réception des clients. Alors j'ai discuté avec elle quelques minutes. Ça m'a mis à l'aise. Je me suis rassuré. Finalement, j'ai retrouvé un petit peu mon calme. Quelques minutes plus tard, après notre arrivée, sont arrivés d'autres clients. Un couple d'Allemands, je crois. Et finalement, la jeune Française à la réception m'a expliqué que nous serions au total 8 personnes et que nous serions tous dans le même rafting, dans la même embarcation. Ensuite, l'animateur est arrivé. C'était la personne donc qui allait conduire, qui allait piloter le bateau. Il avait l'air vraiment très sympa, hyper professionnel, très cool. Bon, j'étais finalement un peu plus rassuré encore. On est tous montés dans un minibus. Et on a parcouru, je crois, peut-être une vingtaine de kilomètres encore pour arriver exactement au point de départ de la descente en rafting. Alors là, la rivière était incroyablement agitée, il y avait beaucoup d'eau parce qu'il avait plu la veille et qu'il y avait au-dessus exactement un grand glacier qui était en train de fondre. Donc le volume d'eau était vraiment extraordinaire. Et le moniteur expliquait que c'était vraiment des conditions idéales. On est donc arrivé, on a posé le bateau au sol et le moniteur nous a tous fait monter à l'intérieur et nous a expliqué les consignes de sécurité, il nous a donné les commandements à suivre lorsque nous serions donc sur la rivière, comment tourner à droite, comment tourner à gauche, faire toutes les choses selon ses ordres. Finalement, on a transporté le bateau jusqu'à la rivière et l'aventure a commencé. Alors là, 1h30, presque 2 heures de folie, une descente dans des eaux très violentes, énormément d'eau. J'ai vécu une expérience totalement incroyable, certainement l'une des plus excitantes de toute ma vie. Je pourrais comparer ça à une expérience de Via Ferrata.
Exercice 2. Vous allez entendre un homme expliquer pour quelles raisons il a décidé de devenir professeur de français. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions 1 à 8 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bon, alors en fait, je vais vous expliquer pourquoi je suis devenu professeur de français. En fait, au départ, je n'aimais pas du tout l'école. Je détestais l'école. C'était affreux pour moi, l'école. Alors, je vais aller à l'université. Et là, ça sera vraiment très différent de l'école. Alors, je suis allé à l'université. C'était à Montpellier. Et là, bizarrement, l'université, c'était comme l'école pour moi. Donc vraiment, ça me plaisait pas du tout. Alors, je me suis décidé à partir. Alors, je voulais partir, aller étudier dans un autre pays, pas simplement pas rester en France. Alors au départ, je voulais partir dans un pays anglophone parce que je parlais anglais en fait un peu, même assez bien. Et finalement, partir dans un pays anglophone, c'était pas possible parce que c'était trop cher. En fait, les études dans les pays anglais, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, ça coûtait trop cher pour un étranger. Alors je me suis dit, bon, je vais peut-être aller en Allemagne, voilà, ça serait une idée, peut-être à Berlin. C'était finalement pas une mauvaise idée, sauf qu'il y avait un tout petit problème, je ne parlais pas du tout, mais alors pas du tout allemand. Alors, je suis parti, effectivement, à Berlin, j'ai appris l'allemand, et puis, mes parents n'étaient pas d'accord pour que j'aille faire mes études à Berlin, parce que pour eux, aller faire mes études à Berlin alors que je ne parlais pas du tout allemand, pour eux, ça, c'était pas possible. Alors, effectivement, mes parents ont décidé de ne plus m'envoyer d'argent, en fait, à l'époque, il me restait seulement 120 marks dans la poche. 120 marks, c'était pas beaucoup. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour gagner ma vie? Alors, j'ai travaillé dans une usine à chocolat, j'ai travaillé comme agent de sécurité pour les concerts, Supertramp, par exemple. Gros problème pour moi, parce que, bon, moi, j'étais assez petit, et les personnes qui venaient dans les concerts, c'était des grands Allemands qui étaient grands et forts, et moi, je semblais vraiment très petit. Et puis, finalement, j'ai eu une idée, j'ai dit, tiens, mais je pourrais devenir professeur de français. Et simplement, c'était bizarre pour quelqu'un qui n'aime pas l'école de devenir professeur de français. Alors, j'ai cherché du travail et finalement, on m'a proposé de travailler dans un cours du soir pour enseigner à des adultes. Et là, j'ai commencé à donner des cours et bizarrement, tout à coup, ça m'a intéressé. Ça m'a tellement intéressé que je suis devenu professeur de français et maintenant, entre-temps, je suis devenu même spécialiste de l'enseignement du français. Comme quoi, quand on n'aime pas l'école, il y a de l'espoir. Bon, alors en fait, je vais vous expliquer pourquoi je suis devenu professeur de français. En fait, au départ, je n'aimais pas du tout l'école. Je détestais l'école. C'était affreux pour moi, l'école. Alors, je vais aller à l'université. Et là, ça sera vraiment très différent de l'école. Alors, je suis allé à l'université. C'était à Montpellier. Et là, bizarrement, l'université, c'était comme l'école pour moi. Donc vraiment, ça me plaisait pas du tout. Alors, je me suis décidé à partir. Alors, je voulais partir, aller étudier dans un autre pays, pas simplement pas rester en France. Alors au départ, je voulais partir dans un pays anglophone parce que je parlais anglais en fait un peu, même assez bien. Et finalement, partir dans un pays anglophone, c'était pas possible parce que c'était trop cher. En fait, les études dans les pays anglais, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, ça coûtait trop cher pour un étranger. Alors je me suis dit, bon, je vais peut-être aller en Allemagne, voilà, ça serait une idée, peut-être à Berlin. C'était finalement pas une mauvaise idée, sauf qu'il y avait un tout petit problème, je ne parlais pas du tout, mais alors pas du tout allemand. Alors, je suis parti, effectivement, à Berlin, j'ai appris l'allemand, et puis, mes parents n'étaient pas d'accord pour que j'aille faire mes études à Berlin, parce que pour eux, aller faire mes études à Berlin alors que je ne parlais pas du tout allemand, pour eux, ça, c'était pas possible. Alors, effectivement, mes parents ont décidé de ne plus m'envoyer d'argent, en fait, à l'époque, il me restait seulement 120 marks dans la poche. 120 marks, c'était pas beaucoup. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour gagner ma vie? Alors j'ai travaillé dans une usine à chocolat, j'ai travaillé comme agent de sécurité pour les concerts, Supertramp par exemple. Gros problème pour moi parce que bon, moi j'étais assez petit et les personnes qui venaient dans les concerts, c'était des grands Allemands qui étaient grands et forts et moi je semblais vraiment très petit. Et puis finalement j'ai eu une idée, j'ai dit tiens, mais je pourrais devenir professeur de français. Et simplement, c'était bizarre pour quelqu'un qui n'aime pas l'école de devenir professeur de français. Alors, j'ai cherché du travail et finalement, on m'a proposé de travailler dans un cours du soir pour enseigner à des adultes. Et là, j'ai commencé à donner des cours et bizarrement, tout à coup, ça m'a intéressé. Ça m'a tellement intéressé que je suis devenu professeur de français et maintenant, entre-temps, je suis devenu même spécialiste de l'enseignement du français. Comme quoi, quand on n'aime pas l'école, il y a de l'espoir.
Exercice 3. Vous allez entendre une jeune femme qui parle d'un voyage exceptionnel. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 7. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Oui, alors une expérience assez exceptionnelle, c'était mon premier tour à vélo, en fait. C'était en 2010 et mon copain avait dit en rigolant que la prochaine fois qu'il voulait aller en France, c'était à vélo. Et moi, je l'ai pris au pied de la lettre et je lui ai dit « d'accord ». Donc en fait, on a préparé notre voyage, on s'est renseigné sur le matériel dont on avait besoin, on a acheté des nouveaux vélos, etc., etc., du matériel de camping, par exemple. Et puis, on est parti début juillet 2010, donc, à vélo pour la France, de Vienne. On a fait à peu près 90 km par jour, en moyenne, et on est arrivé en France après 22 jours.
Bravo.
Mais c'était vraiment une expérience fantastique parce que on a vraiment pris le temps de découvrir l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse et la France. Et puis on a vu des paysages divers et des villes diverses aussi. Ce qui était intéressant, c'était de voyager lentement. De profiter du paysage, d'être dans la nature en fait en permanence. Le retour à la civilisation était un peu difficile finalement. Et on était tous les deux très contents de notre voyage. C'était assez exceptionnel. On a dormi quasiment toutes les nuits sous la tente. Et puis entre-temps, on avait quand même des connaissances ou des gens de la famille qui habitaient un peu sur le chemin. Donc on a profité de ça pour dormir dans des vrais lits. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore te raconter ? Ah oui, notre trajet. Donc on est parti de Vienne, on a suivi le Danube, on a remonté le Danube jusque presque à la source. Ensuite, on a suivi le Rhin jusqu'à la frontière française à peu près. Et là, il y a quelques canaux, donc on a suivi les canaux et ensuite on a descendu la Loire jusqu'à Blois, donc ma ville d'origine.
Eh ben très bien. Et pour rentrer, comment est-ce que vous avez fait ?
En avion.
Ah d'accord, c'était le chemin le plus court et le plus rapide.
C'était le chemin le plus court, mais c'était aussi une aventure parce qu'il a fallu emballer les vélos et tout faire aux normes, en fait, pour qu'on puisse les mettre dans l'avion. Mais ça s'est très bien passé.
Et vous vous êtes entraînée avant ?
Moi, je me suis entraînée. Alors, mon copain n'a pas besoin de s'entraîner puisqu'il avait déjà de l'expérience. Moi, je me suis entraînée, donc depuis... De février à juillet, j'avais un programme et je faisais régulièrement du vélo chaque semaine, plus un peu de jogging aussi.
D'accord. Et tu aimes toujours faire du vélo ?
J'aime toujours faire du vélo et faire aussi passer mes vacances à vélo. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire maintenant.
Très bien. Je te remercie beaucoup, Estelle.
Merci. Oui, alors une expérience assez exceptionnelle, c'était mon premier tour à vélo, en fait. C'était en 2010, et mon copain avait dit en rigolant que la prochaine fois qu'il voulait aller en France, c'était à vélo. Et moi, je l'ai pris au pied de la lettre, et je lui ai dit « D'accord ». Donc, en fait, on a préparé notre voyage, on s'est renseigné sur le matériel dont on avait besoin, on a acheté des nouveaux vélos, etc., etc., du matériel de camping, par exemple. Et puis, on est parti début juillet 2010, donc, à vélo pour la France, de Vienne. On a fait à peu près 90 km par jour, en moyenne. Et on est arrivé en France après 22 jours.
Bravo.
Mais c'était vraiment une expérience fantastique parce que on a vraiment pris le temps de découvrir l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse et la France. Et puis on a vu des paysages divers et des villes diverses aussi. Ce qui était intéressant, c'était de voyager lentement. De profiter du paysage, d'être dans la nature en fait en permanence. Le retour à la civilisation était un peu difficile finalement. Et on était tous les deux très contents de notre voyage. C'était assez exceptionnel. On a dormi quasiment toutes les nuits sous la tente. Et puis entre-temps, on avait quand même des connaissances ou des gens de la famille qui habitaient un peu sur le chemin. Donc on a profité de ça pour dormir dans des vrais lits. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore te raconter ? Ah oui, notre trajet. Donc on est parti de Vienne, on a suivi le Danube, on a remonté le Danube jusque presque à la source. Ensuite, on a suivi le Rhin jusqu'à la frontière française à peu près. Et là, il y a quelques canaux, donc on a suivi les canaux et ensuite on a descendu la Loire jusqu'à Blois, donc ma ville d'origine.
Eh ben très bien. Et pour rentrer, comment est-ce que vous avez fait ?
En avion.
Ah d'accord, c'était le chemin le plus court et le plus rapide.
C'était le chemin le plus court, mais c'était aussi une aventure parce qu'il a fallu emballer les vélos et tout faire aux normes, en fait, pour qu'on puisse les mettre dans l'avion. Mais ça s'est très bien passé.
Et vous vous êtes entraînée avant ?
Moi, je me suis entraînée. Alors, mon copain n'a pas besoin de s'entraîner puisqu'il avait déjà de l'expérience. Moi, je me suis entraînée. Donc, de février à juillet, j'avais un programme et je faisais régulièrement du vélo chaque semaine, plus un peu de jogging aussi.
D'accord. Et tu aimes toujours faire du vélo ?
J'aime toujours faire du vélo et faire aussi passer mes vacances à vélo. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire maintenant.
Très bien. Je te remercie beaucoup, Estelle.
Merci.
Exercice 4. Vous allez entendre le maire d'une petite ville au bord de la mer parler de ses activités en été. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 7. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse 0 est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Oui, alors la journée d'un maire, si je prends mes feuilles de route, le matin, moi je suis là vers 7h30, 8h moins le quart. J'ai des conversations avec mon directeur général des services. On fait le point sur ce qui s'est passé la veille, sur ce que sera la journée qui arrive. Ensuite, je fais le point avec ma police municipale, surtout en été. Ouais, c'est vrai que la sécurité est très très importante pendant cette période, comme toujours, mais surtout pendant cette période. Ensuite, j'ai mes rendez-vous. En fin de matinée, je vais au port de Bandol, puisque nous avons un grand port qui est un des premiers de Méditerranée. Il y a 1600 places de bateaux, parce que je suis aussi responsable du port. Le maire est responsable de sa ville et de son port. Donc, je passe la fin de matinée au port. Ensuite, j'ai souvent, parfois, un petit déjeuner de travail. Ouais, c'est normal. Et on reprend ensuite à 14h, en général au moins jusqu'à 18h, voire 19h. Après, on a des inaugurations, des vernissages. En été, c'est tous les soirs que nous avons un spectacle. La journée est bien remplie. Les week-ends ne sont pas toujours des week-ends de repos non plus, parce que le samedi, il y a des associations qui font des spectacles où il y a des remises de prix, où il faut assister à certaines cérémonies. On a beaucoup de cérémonies, que ce soit aussi les cérémonies des anciens combattants, les cérémonies commémoratives. Et le maire fait beaucoup de mariages. Parce que je tiens à faire beaucoup de mariages, parce que le mariage est vraiment un acte très important et j'avoue que la population est très sensible à ce que soit le maire qui les marie. Donc un mariage aussi, c'est le samedi en fin de matinée ou le samedi après-midi. Donc il n'y a guère que souvent le dimanche, quand il n'y a pas de grandes assemblées ou de grands spectacles, qu'on peut se libérer un petit peu. Et le cycle annuel fait que on a très peu de vacances. Moi, je prends 8 jours par an ou une dizaine de jours par an, parce que en été, on a beaucoup de travail. Et donc, voilà, c'est à peu près comme ça, 8 à 15 jours par an de vacances. Oui, alors la journée d'un maire, si je prends mes feuilles de route, Le matin, moi, je suis là vers 7h30, 8h moins le quart. J'ai des conversations avec mon directeur général des services. On fait le point sur ce qui s'est passé la veille, sur ce que sera la journée qui arrive. Ensuite, je fais le point avec ma police municipale, surtout en été. Ouais, c'est vrai que la sécurité est très très importante pendant cette période, comme toujours, mais surtout pendant cette période. Ensuite, j'ai mes rendez-vous. En fin de matinée, je vais au port de Bandol, puisque nous avons un grand port qui est un des premiers de Méditerranée. Il y a 1600 places de bateaux, parce que je suis aussi responsable du port. Le maire est responsable de sa ville et de son port. Donc, je passe la fin de matinée au port. Ensuite, j'ai souvent, parfois, un petit déjeuner de travail. Ouais, c'est normal. Et on reprend ensuite à 14h, en général au moins jusqu'à 18h, voire 19h. Après, on a des inaugurations, des vernissages. En été, c'est tous les soirs que nous avons un spectacle. La journée est bien remplie. Les week-ends ne sont pas toujours des week-ends de repos non plus, parce que le samedi, il y a des associations qui font des spectacles où il y a des remises de prix, où il faut assister à certaines cérémonies. On a beaucoup de cérémonies, que ce soit aussi les cérémonies des anciens combattants, les cérémonies commémoratives. Et le maire fait beaucoup de mariages. Parce que je tiens à faire beaucoup de mariages, parce que le mariage est vraiment un acte très important, et j'avoue que la population est très sensible à ce que soit le maire qui les marie. Donc un mariage aussi, c'est le samedi en fin de matinée ou le samedi après-midi. Donc il y a guère que le souvent le dimanche, hein, quand il n'y a pas de grandes assemblées ou de grands spectacles, que on peut se libérer un petit peu. Et le cycle annuel fait que on a très peu de vacances. Moi, je prends 8 jours par an ou une dizaine de jours par an, parce que en été, on a beaucoup de travail. Et donc voilà, c'est à peu près comme ça, 8 à 15 jours par an de vacances.
C'est la fin du test de compréhension orale.